2, 1.
Beaucoup de choses pour vous autres. D'ici 18 heures, ça vous tente d'avoir des accès et des dégustations pour le Festibiaire de Lévis, ce sera possible. Également, toute la semaine, on fait des finalistes pour permettre à un auditeur, une auditrice, avec son chum, sa blonde, un enfant, un tripeux, une tripeuse, pour aller voir en avant-scène Limp Bizkit au festival d'été.
Pas la donte!
Une opportunité par jour jusqu'à vendredi. Saisissez-la d'ici 18 heures. On a aussi un vote qui est en cours pour notre tournoi ultra crédible de la chanson la plus importante de l'histoire du Québec et les deux chansons qui s'affrontent aujourd'hui sur l'Instagram de Boulevard. Salut Salo de Vilain Pingouin et Si Fragile de Luc de la Rochelière. C'est la catégorie chanson Hop la vie. Hein? Ça parle de suicide puis de gens qui meurent. C'est super, super. Hein? On aime ça, la joie au Québec.
Mais c'est lundi après tout.
Ouais. Mais il y aurait un débat à faire juste là-dessus. Les meilleures chansons, c'est-tu les chansons tristes ou les chansons joyeuses?
Ben c'est parce qu'en fait, ça prendrait un combat de la meilleure toune triste, puis après ça, tu fais un combat de la meilleure toune joyeuse. Puis là, parce...
Ben, c'est juste, t'sais, prenons n'importe quelle bande, les Cowboys Fringants.
Oui.
Tu sais, la meilleure, c'est-tu Marine Marchande ou Les Étoiles Filantes? On pourrait faire une thèse là-dessus,
non,
puis jamais
ben
voir
non.
Le bout. Là.
Marine Marchand n'est même pas dans le top 5 des Cowboys.
C'est-tu I Lost My Baby ou 1990, la meilleure toune de Jean Leloup? Tu sais, juste un artiste, on se fourre. Parce que c'est dur de comparer une toune qui brasse avec une toune qui est déprimante.
C'est-tu entre ces deux-là pour Jean Leloup, pour vrai?
J'essaye de donner des exemples pour illustrer un point. Je veux pas m'astiner avec toi, Max. Je le sais qu'ils vont le démolir, le Colisée, là.
Je veux tout le temps m'obstiner.
Oui, je le sais.
C'est
mais
ça,
là, t'as eu une grosse journée, là. Prends off un peu, là. T'as pas besoin de t'astiner tout le temps, là. Bref, on va. Nous autres, on va se rendre au bout de ce tournoi-là, mais j'ai l'impression que la discussion et les débats vont, eux, se poursuivre sur la plus grande chanson de l'histoire.
Puis
du
moi,
Québec.
Demain, je pars ma série de la meilleure toune québécoise dans le point de Max. On va faire un bracket.
Ah, bon, d'accord, on oui, va... c'est ça.
Ça sera pas mêlant pantoute sur nos réseaux sociaux.
J'aime ça de même, clair de même, j'apprécie. Parlant de dossiers manquant de clarté, la Dieu. Présence de Donald Trump à la Maison-Blanche fait en sorte qu'à chaque fois qu'il y a une annonce officielle, on se demande si cette fois c'est la bonne ou on se fait encore niaiser. Mais à corps défendant, on n'aura jamais autant parlé d'actualité internationale de notre vie. C'est-tu
ouais.
L'inquiétude qui amène ça? Peut-être. C'est-tu le fait que lui crée des événements aussi? Peut-être. Mais encore une fois, on se pose la question, est-ce que cette fois, c'est la bonne? On va parler d'actualité internationale sous plusieurs aspects avec Éric Sauvé, qui est vétéran, qui est analyste stratégique chez Inovigo.ca. Salut Éric, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Oui, ça va. Est-ce que cette fois, c'est la bonne? Est-ce que c'est la fin de la guerre en Iran?
Je ne dirais pas que c'est la fin de la guerre en Iran. Cependant, c'est la première fois que l'Iran admet qu'il y a un accord qui s'en vient. Le Pakistan l'a annoncé aussi. Le Qatar, qui a joué un rôle important, l'a annoncé. Mais là, il faut comprendre que ce n'est pas un accord de paix. C'est un protocole d'entente qui fait en sorte qu'on va continuer à se parler. Donc, ce qui va être signé en Suisse vendredi, si ça arrive,
oui.
C'est un protocole d'entente pour discuter sur les points d'Akiachop pendant les 60 prochains jours. C'est un peu comme si on continuait le cessez-le-feu, dans le fond.
Dans le fond, ce qui semble être la priorité pour tout le monde, c'est de rouvrir le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'il va rouvrir, lui, vendredi, si on se rend à signer cette entente-là?
Oui, mais c'est pas comme si on levait une barrière puis on disait passer. Hein? Le,
ouais.
Le détroit d'Ormuz a été miné par les Iraniens. Va devoir être déminé. Là, il y a des couloirs en ce moment qu'on peut utiliser qui ne sont pas les couloirs habituels. Et puis, il y a comme 600 navires, dont 250 pétroliers, qui sont là depuis plusieurs jours, sinon plusieurs semaines, dans certains cas, plusieurs mois, qui veulent repartir, mais ce ne sont pas des navires de guerre. Ce n'est pas des pétroliers qui vont prendre des risques. Ils vont attendre de s'assurer que tout est normal, tout est sous contrôle, avant de s'engager. Donc, ça va prendre... Juste l'opération de déminage, on parle de 6 à 8 semaines, et de faire ressortir ces pétroliers-là, on parle encore de semaines et de mois. Là.
Éric, ils sont quand même importants dans tout ce dossier-là, mais Israël ne fait pas partie de cet accord-là?
Ça, c'est un gros problème qui a été un problème pour l'Iran depuis le début. Ils ont dit que l'accord devait prendre en compte la situation d'Israël. Israël a accepté peut-être d'arrêter de combattre, mais ils n'ont pas quitté le sud Liban et ont justement bombardé Beyrouth
Ben
il n'y a pas
oui.
longtemps. Ce qui m'inquiète par rapport à ça, quand je parle de vendredi, c'est qu'il reste encore 4 jours avant que ça se signe.
C'est long
Et
4 jours,
puis,
hein?
c'est long 4 jours quand tu as Netanyahou qui n'est pas content de
Ouais.
l'accord, quand tu as des députés d'extrême droite qui veulent que ça continue, les risques que ça s'envenime encore d'ici vendredi sont assez élevés. Si tout va bien, ils vont signer, mais ils n'ont pas signé un accord sur le programme nucléaire iranien,
Ben oui,
ce qui était la grosse. Ouais, vas-y.
ça c'est l'autre affaire, c'est que depuis le début, c'est le point qui achoppe,
C'est le déclencheur même.
le point majeur, mais là, à partir du moment où le point n'est pas dans l'entente, ça vaut quoi cette entente-là? Puis c'est quand qu'on s'entend sur le nucléaire, là?
Là-dessus, on va donner 1-0 à l'Iran parce que l'Iran a tenu à ce que les négociations sur le nucléaire se fassent après un cessez-le-feu. Et c'est ça qu'ils gagnent en signant le protocole d'entente vendredi. Là, est-ce qu'ils vont renoncer à l'enrichissement pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans? On ne le sait pas. Qu'est-ce qui va arriver avec les 450 kg d'uranium? On ne le sait pas. En fait, le problème, c'est qu'on sait très peu de choses. Le président Trump est au sommet du G7. Et je suis certain que tout le monde tire sur sa chemise en disant, j'aimerais savoir c'est quoi qu'il y a dans le protocole d'entente, parce qu'il y a très peu de choses qui ont transpercé. Et puis, c'est l'inquiétude en ce moment, c'est on va entendre des choses du côté américain, du côté iranien, qui ne vont pas nécessairement concorder. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui va être signé vendredi prochain.
Je veux pas tomber dans les théories trop simplistes, puis en même temps, c'est difficile de ne pas le faire quand on parle de Donald Trump, mais est-ce qu'on voulait absolument signer quelque chose pour bien paraître au 80e anniversaire avec Dana White puis la gang du UFC en avant de la Maison-Blanche?
J'adhère complètement à ta théorie. Il est sorti sur Truth Social à 5h29, un peu avant le début des combats, un peu avant le début des orages, pour sortir en gagnant. Le lendemain, ben aujourd'hui, il est maintenant au sommet du G7. Donc, il est accueilli comme quelqu'un qui a amené la paix. On s'entend que c'est lui qui a amené la guerre au
Ben oui,
Moyen-Orient.
ben oui.
C'est lui qui a forcé la fermeture du détroit qui vient peut-être de réouvrir. Donc, moi, je suis très cynique et je pense aussi que tout ça était très bien orchestré comme seul Donald Trump sait le faire.
Ça reste une défaite personnelle pour Donald Trump, même si on réussit à faire signer une entente vendredi.
Je te dirais que c'est plus qu'une défaite personnelle, c'est une défaite pour les Américains au complet. Encore une fois, tout dépendamment de qu'est-ce qui sort vendredi, mais la réputation des Américains dans le monde, au Moyen-Orient, là, ce qui n'est pas tellement sorti dans les médias, mais ce qu'on sait quand même de sources sûres, c'est que les bases américaines dans la région ont été frappées assez durement. Les Américains ont réussi à cacher ça, mais il a fallu qu'ils vident leurs bases, qu'ils envoient leur personnel coucher dans des hôtels au Qatar, au Bahreïn, un peu partout en Jordanie. Les pays qui sont alliés avec les États-Unis au Moyen-Orient ne sont pas du tout contents de qu'est-ce qui s'est passé. Les Américains vont avoir de plus en plus de difficultés à maintenir une présence. Et aussi, dernière affaire, c'est qu'ils ont tout fait de façon unilatérale avec Israël. Donc, les alliés ont perdu confiance. Donc, tout ce qui est la réputation des Américains est fortement affecté par cette guerre-là.
Éric, un autre aspect qu'on voulait aborder avec toi de l'actualité internationale, c'est la montée de la droite un peu plus radicale ailleurs dans le monde. Puis moi, ça m'étonne un peu à prime abord parce que je me disais, au fur et à mesure que la balloune de Donald Trump est en train de nous péter d'en face, j'imagine qu'on se rend compte que c'est pas une super stratégie d'aller là. Mais quand on parle de la droite radicale, c'est peut-être plus par rapport à l'immigration qu'on est capable de marquer des points. C'est dans quel pays présentement que la droite un peu plus raide, un peu plus abrupte fait des remontées ou des montées?
Ben écoutez, en France, on a Marine Le Pen qui a toujours été très populaire dans les dernières années. En Allemagne, il y a un parti qui est littéralement un parti pro-nazi. Donc
Oui.
en Allemagne même, il y a Orban en Hongrie qui a perdu,
Qui
une
s'est fait
bonne
tasser, ben
chose.
oui.
C'est fait tasser. Mais on a en Argentine Javier Milei qui est un sosie de Trump. Il y avait celui au Brésil avant. Il y en a un au Nicaragua. Je veux dire, Trump a créé des sosies parce que peu importe qui gagne ou qui perde, il y a quand même une assez importante longévité au niveau d'être président. C'est le seul président qui a fait deux mandats non consécutifs. Ça fait au moins 12 ans qu'il est sur la scène internationale. Il a révolutionné beaucoup de choses, pas nécessairement d'un côté positif, mais il y a des gens qui vont émuler ça. Et puis, c'est un populiste et les gens qui n'aiment pas l'immigration, qui n'aiment pas le fait que l'argent est du côté des élites, se disent peut-être que si on élit quelqu'un de droite, d'extrême un peu, peut-être que ça va changer.
Parce que pour qu'un personnage particulier comme Donald Trump réussisse à se hisser à la présidence deux fois plutôt qu'une, à quelque part, tu es très insatisfait de ce qui se passe en politique. À quelque part, et à gauche et à droite, tu rejettes la politique ou le système politique ou la façon un peu vieillotte de faire les choses, puis tu te dis, rendu là, j'aime mieux essayer de faire coller n'importe quoi sur le mur en espérant que ça colle.
Complètement. Et puis les deux choix, tu sais, c'était Trump qui est à droite ou même Bernie Sanders qui est à l'extrême gauche. Les gens se disaient, il faut qu'on change les partis traditionnels, il faut qu'on essaie d'autres choses. Moi, j'utilise souvent l'allégorie de la pendule qui part d'un extrême à un autre, hein. On a eu des partis beaucoup plus à gauche, et puis là, il y a comme un ressac. Là, ça s'en va à droite. On s'en va vers une droite radicale. Les choses vont se repositionner éventuellement. Mais partout dans le monde, on voit une montée de la droite radicale. J'ai aucun problème avec la montée de la droite. C'est la droite radicale qui m'inquiète, comme la gauche radicale m'inquiète. Et ces gens-là amènent des solutions simples à des problèmes complexes que les gens peuvent comprendre puis se disent, oh, lui est sérieux, il va changer les choses, quand le problème est beaucoup plus complexe à la base souvent.
Même dans des pays qu'on considère comme plates comme la pluie, Véro me parle depuis une couple de jours de ce qui se passe en Suisse. Moi, la Suisse, c'est le pays neutre d'une guerre mondiale, c'est le fromage suisse, puis c'est les montres suisses.
Alors qu'on faisait un référendum en fin de semaine pour essayer de plafonner la population maximale de la Suisse, moi, j'ai vu ça comme étant justement un outil pour faire diminuer l'immigration et bloquer l'immigration?
Tu sais, puis il y a une réflexion intelligente à faire sur le flot des immigrants. Des fois, on a de la misère à garder le ton, mais en même temps, derrière ça, il y a aussi un discours anti-immigrant qui peut être un peu troublant et dérangeant, là.
Bien, il y a un gros mouvement anti-immigration en Europe. Ça a commencé avec la Syrie il y a quelques années. Des réfugiés de différents pays, ils ont eu des problèmes en Allemagne, ils en ont trop admis. C'est normal qu'on veuille gérer les taux d'immigration, mais maintenant, il y a des partis qui exploitent ça en voulant complètement fermer les frontières, ou presque. C'est une bonne chose que la Suisse l'ait rejeté, mais on peut s'attendre à des votes similaires dans d'autres pays, des gens qui montent et qui disent le problème est à l'extérieur. Si on ferme nos frontières, il y a juste des bonnes personnes à l'intérieur. Trump a dit la même chose avec son mur. Il a démontré que tout ce qui venait du Sud était mauvais. Fait que là, les gens s'en prennent aux Cubains, aux Vénézuéliens, en les mettant tous dans le même bateau, dans le fond.
Éric Sauvé, c'est comme toujours un plaisir, en espérant qu'on se rende jusqu'au vendredi sans que ça change trop d'un bord ou de l'autre.
On pourrait planifier une entrevue vendredi parce que je suis pas certain qu'on va assister à une signature.
Peut-être même avant. Merci, Éric.
Merci, à la prochaine.
Salut, Éric Sauvé, qui est vétéran analyste stratégique chez Inovigo.ca. Pour situation particulière, moi, pour vrai, j'ai jamais vu ça de mon vivant. Le cirque, le freak show qu'on a fait en avant de la Maison-Blanche en fin de semaine, où tu vois le président des États-Unis sortir de la Maison-Blanche avec Dana White, un des plus gros crosseurs de l'histoire du sport professionnel. Puis, tu sais, c'est un gars qui a réussi à faire du UFC un sport crédible et ainsi de suite. Mais on s'entend-tu que dans les 20 dernières années, il est devenu un peu une joke ambulante, comme ben du monde qui viennent riches bien vite puis puissants bien, bien vite. Et dans le cadre de cet événement-là, ben on a laissé monter non seulement sur le ring, mais on a laissé parler un gars qui est réputé pour être un parfait imbécile dans toutes les circonstances de sa vie, un combattant des arts martiaux mixtes. Il y en a qui sont brillants, il y en a qui le sont pas mal moins. Lui, c'est un méchant pocaille, puis dès qu'ils ont donné le micro, la première affaire qu'il a dit en avant de la Maison-Blanche, c'est « Michel Obama, c'est un homme ».
Yeah!
Yeah! Et autour, tu sais, si le gars voulait faire passer pour une gang d'attardés les gens qui étaient à Maison-Blanche pour le 80e anniversaire de Donald Trump, il n'aurait pas pu faire pire. C'est incroyable, c'est surréaliste. C'est les images les plus gênantes que nos démocraties nord-américaines ont jamais offert sur un plateau d'argent à des dictateurs ailleurs qui disent « Hey, les Américains sont en train de s'effoirer, c'est une joke. » je comprends rien là-dedans.
On faisait des liens avec le film Idiocracy.
Ouais. Ben oui,
depuis
ben oui.
Un petit bout déjà.
Faut là, je l'écoute. Hein?
On dirait que de plus en plus. Puis hier, je pense qu'on a atteint possiblement l'événement qui aurait le plus pu se retrouver dans ce film-là. C'est hier, ça.
C'était tellement une bonne comédie dans le temps. Là, on dirait un film dystopique.
Ben, tous les éléments, tu parles du gars qui monte sa scène, dire « Même Jonathan, c'est un homme. » Tout là-dedans aurait pu être dans Idiocracy, puis là, tu aurais vu ça, puis tu aurais fait « c'est drôle. »
La veille, le même combattant a fait semblant d'être ivre-mort lors de la pesée. Puis, il a tellement été convaincant que la plupart des gens n'ont pas compris qu'il faisait une joke. Puis, on pensait qu'il était juste sous-mort. Tu sais, c'est un gars qui aime ça, là, brasser de la marde, mettons, là. C'est pas le genre de gars que tu mets au centre d'une cérémonie diplomatique pour souligner une des plus grandes démocraties de l'Amérique du Nord. Parce que tu sais que ça va te péter dans la face. Bien, c'est exactement ce qui est arrivé. Puis, je vous redonne ma prédiction. Un WrestleMania en avant de la Maison-Blanche, si Donald Trump se rend au bout de son mandat, on va peut-être vivre ça pour vrai, là. Donald Trump avec Triple H puis Stephanie McMahon qui partent du bureau avant rien qu'en le disant. Man, j'ai des frissons de dégoût, là.
Il reste quoi, 2 ans et demi?
2 ans et demi, ouais. Tu vois, le prochain WrestleMania, c'est du côté des Émirats arabes unis parce qu'on va où est-ce qu'il y a de l'argent et on se sacre des principes moraux, de la liberté d'expression, puis de tout ça. On s'en va chercher de l'argent puis on s'en sacre comme l'an 40. Quand la WWE a commencé à négocier avec les Émirats arabes unis, tout le monde disait « Ça arrivera jamais, WrestleMania. Au moins, on va garder WrestleMania, le Super Bowl de la lutte. » Ouais, l'année prochaine, c'est eux autres qui l'ont. Puis après ça, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire, les Donald Trump? Ben, ils vont se dire « Ah ben, tabarnouche, nous autres aussi, ça nous en prend un. Hein? » Fait qu'on va voir l'Undertaker avec son chapeau puis son grand manteau sortir de la Maison-Blanche avec la boucane bleue en arrière. Puis, tu sais, c'est complètement, complètement burlesque. Puis je dis pas que... De mettre de l'entertainment pour le monde, c'est pas la chose à faire. Mais dans ce contexte-là, ça a l'air d'être un dictateur qui veut montrer qu'il y a une plus grosse bisoune que d'autres dictateurs à travers le monde. Ça fait cocombe. Au point où plein de gens qui sont en amour avec leur pays, sont nés aux États-Unis, c'est des artistes aux États-Unis, ben ils se font inviter à un événement comme celui-là, puis ils disent, ben là, non, le jupon dépasse beaucoup trop. C'est pas les États-Unis qu'on célèbre, c'est Donald Trump. C'est égocentrique à ce point-là. Puis probablement que ces gens-là qui ont refusé l'invitation, ben quand ils ont vu le combattant crier que Michelle Obama était un homme à la télévision nationale, ils se sont dit, hey, j'ai callé la bonne shot, moi. Je suis pas là. J'aurais pas voulu être dans le cadrage de la TV quand cet événement-là est arrivé.
Les frères Kachuk étaient là?
Les frères Kachuk étaient là. Ben, êtes-vous surpris? Là, il y en a qui vont dire Georges Saint-Pierre était là.
Oui.
Je pense que Georges Saint-Pierre, mon Dieu, a une belle naïveté. Je me ferais pas défaire en 500 morceaux pour dire que Georges Saint-Pierre est un joyeux naïf. Tu sais, lui, il est invité, c'est une légende
De ce sport-là. J'avais de la misère à dire sport, tellement que là, c'était un peu cirque en fin de semaine.
Tu sais, je pense que c'est le dernier à se rendre compte de la mascarade politique qu'il y a autour, là, avec respect.
Mais en même temps, je pense qu'il est plus républicain que démocrate dans ses idéologies. Mmh. Je pense qu'il est peut-être... Peut-être qu'il se rend compte là, un petit peu de ce qui se passe puis que lui est pour ça. Là. Puis il a le droit.
Faudrait peut-être lui demander s'il pense que Michelle Obama est un homme. Ce serait peut-être intéressant d'avoir la réponse rendue là. Il est 4h moins quart. On s'arrête quelques instants. Vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour. Il y a de la circule, Max.
Oui, l'accès au pont Pierre-Laporte direction sud, ça s'est devenu compliqué pas mal dans les dernières minutes. Quand tu arrives par Duplessis, ralentissement qui commence un peu avant le boulevard du versant nord, par Henri IV, ça bouche à peu près hauteur chemin des Quatre Bourgeois, quoi qu'il y a aussi plus haut où il y a les travaux, hauteur de la 40 toujours. Sinon, Capitale-Est, l'est de l'entrée par Henri IV jusqu'à l'approche de Pierre Bertrand. C'est au rouge. Robert Bourassa, direction nord à partir de Wilfrid Hamel jusqu'à aller chercher la capitale est, là aussi au ralenti. Laurentienne Sud, des petits problèmes par bout entre le boulevard Louis XIV et la capitale. Sinon, on va faire un petit tour sur la rive sud et sur la 20 dans les deux directions hauteur Taniata. Il y a du rouge et direction ouest, hauteur chemin des îles, c'est au ralenti.
On s'arrête pas longtemps, puis on revient.